Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Fanny Schulman, conservatrice au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, pour nous parler de l'exposition Arnold Schönberg, Peindre l'âme, qui se tient actuellement à Paris et jusqu'au 29 janvier prochain, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est une exposition exceptionnelle qui a bénéficié de nombreux prêts du Centre Arnold Schönberg de Vienne et dans lequel on peut découvrir une facette méconnue de ce grand musicien viennois, inventeur du dodécaphonisme. C'est son activité de peintre et au-delà de ça, son lien très fort avec Kandinsky, avec lequel il a réfléchi au lien entre peinture et musique. Alors peut-être avant de nous présenter plus en détail cette exposition dont vous êtes l'une des commissaires, Fanny Schulman, est-ce qu'on peut revenir avec vous tout d'abord sur la biographie d'Arnold Schönberg ?
Oui, tout à fait. Alors, Arnold Schönberg est un artiste, compositeur, musicien avant tout, donc, qui est né à Vienne en 1874. Il est issu d'une famille plutôt populaire. Hein. Son père tient un petit commerce de chaussures. En fait, rien ne destinait Schönberg à devenir l'un des piliers de la musique contemporaine et de la musique du XXe siècle. Son père, en effet, meurt quand Schönberg est âgé de 16 ans et il doit alors interrompre ses études et devenir employé dans une banque pendant quelques années afin de subvenir aux besoins de sa famille. Mais il continue à pratiquer la musique, notamment le violoncelle qu'il avait commencé étant enfant. Et c'est dans le cadre de ses activités absolument amateurs qu'il va rencontrer en fait un certain nombre de figures de la scène musicale viennoise de l'époque. On connaît hein, la grande tradition musicale de cette capitale depuis des décennies et Schönberg va petit à petit rentrer dans cet univers. Alors ça ne se fera pas sans peine parce que Schönberg va évidemment proposer un certain nombre de renversements et de révolutions dans la manière d'écouter et de composer la musique. Donc il va être assez mal perçu au début en tout cas par les critiques et la bonne société viennoise, mais il se lie avec un certain nombre de compositeurs d'avant-garde ainsi que d'artistes, de peintres notamment, ce qui lui permet aussi à un moment de basculer vers la peinture.
Oui, c'est ça. La première partie donc de l'exposition est consacrée cette fois donc à ses liens avec la scène viennoise du début du XXe siècle,
oui.
Avec des artistes comme Kokoschka, Schiele et bien sûr Richard Gerzel qui va jouer un rôle ensuite dans sa vie personnelle, peut-on dire.
Oui, absolument. En fait, dans cette première partie de l'exposition, nous avons voulu insister sur le terreau exceptionnel que constituait le milieu artistique viennois de l'époque et surtout son interdisciplinarité. Il faut imaginer que c'est un milieu artistique qui est très petit parce que Vienne est une petite ville à l'époque. Tout le monde se connaît et face au conservatisme de la société viennoise, les artistes fonctionnent par lien de solidarité. Et en particulier, en fait, les peintres soutiennent les musiciens et vice-versa. Un peintre comme Richard Gerzel, par exemple, qui avait commencé ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, rencontre un certain nombre de musiciens, Gustav Mahler, Alban Berg, mais aussi Arnold Schönberg. Et Richard Gerzel vient à s'installer en fait dans son atelier, dans l'immeuble où habite Arnold Schönberg. C'est sans doute par cette fréquentation presque quotidienne que Schönberg est initié à un certain nombre de techniques picturales, hein, même s'il pratique un certain nombre il a déjà réalisé auparavant des dessins, des aquarelles, mais c'est à partir de sa fréquentation du peintre Gerzel qu'on voit surgir vraiment le médium de la peinture dans le parcours de Schönberg. Alors cette relation qui est assez intense aura une fin assez tragique puisque Richard Gerzel se suicide après avoir eu une histoire d'amour passionnée avec la femme d'Arnold Schönberg.
Il y a une autre rencontre fondamentale pour Schoenberg, c'est en 1911, Kandinsky assiste à un concert de Schoenberg qui va le pousser à entrer en contact avec le compositeur. Ça, c'est le point de départ, au-delà de cette amitié, mais d'une véritable collaboration.
Oui, alors c'est vrai que c'est une amitié, c'est une relation qui est particulièrement importante, hein, sur laquelle on a voulu insister dans l'exposition, parce que c'est une relation qui est avant tout épistolaire et pour laquelle on a la chance d'avoir conservé la trace d'un grand nombre de lettres et d'échanges, ce qui nous permet sur toute la durée en fait de l'amitié entre Arnold Schoenberg et Vassily Kandinsky de pouvoir vraiment suivre l'évolution des deux artistes. De 1911 en gros à 1936. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, cette correspondance permet de mesurer le degré d'intimité et d'estime que se portent ces deux personnages qui sont si importants dans la construction de la modernité au XXe siècle, mais aussi de montrer à quel point cette relation les aide mutuellement à pousser plus loin leurs recherches artistiques. Quand ils se rencontrent en 1911, Schoenberg est en train d'abandonner la tonalité pour passer vers ce que l'on va appeler plus tard la musique atonale, donc qui perd la dominante harmonique sur laquelle se base une grande partie de la musique occidentale jusqu'alors, qui prévalait jusqu'alors, et Kandinsky de son côté est en train de mettre au point le vocabulaire de l'abstraction en fait. Et ils se reconnaissent l'un dans l'autre, alors dans leurs recherches, leurs disciplines respectives, hein, mais voir qu'un autre artiste essaye de repousser les limites du médium qu'il utilise les intéresse particulièrement. Et l'autre aspect qui va particulièrement intéresser Kandinsky, c'est évidemment d'apprendre que Schoenberg a cette activité de peintre en parallèle de celle de compositeur, et il va donc l'inviter à participer à un certain nombre, notamment d'expositions, mais aussi de publications autour de sa peinture.
Oui, c'est ça. Au-delà de ce lien fort que Schoenberg va tisser avec le milieu de la peinture viennoise, il peint lui-même principalement des autoportraits.
Oui. C'est vrai que l'autoportrait est le type de tableau qui prédomine aujourd'hui dans le catalogue raisonné des œuvres peintes de Schoenberg. Mais il a peint quand même d'autres types d'œuvres, notamment des paysages. On a conservé aussi un certain nombre de projets pour des décors d'opéra. Et il y a aussi cette autre typologie très particulière d'œuvres de Schoenberg que lui-même appelle regard bliqueux et que Kandinsky va qualifier de vision, qui sont ces espèces de paysages mentaux, en fait, qui se situent vraiment parfois même au bord de l'abstraction. Hein. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ces typologies de peinture de Schoenberg, donc où prédominent ses visions et ses autoportraits, c'est la dimension introspective de cette peinture. La manière dont Schoenberg va utiliser ce médium pictural pour rechercher à l'intérieur de lui des formes d'expression que probablement il ne parvenait pas à trouver à travers la musique.
Oui, c'est ça. On peut se demander finalement au cours de sa carrière, au cours de sa vie, à quel moment il peint. Est-ce que c'est pour vous un apport pour sa musique ou au contraire c'est un dérivatif?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Schoenberg, la pratique picturale en tant que telle de Schoenberg s'échelonne sur une période relativement courte. Hein. On peut vraiment dater la majeure partie de sa production picturale entre 1907-1908 et 1911-1912. Donc vous voyez, c'est vraiment une période de 4 ou 5 ans qui est très intense. Après cette période-là, la production picturale de Schoenberg va devenir moins importante. Donc on sent que c'est vraiment dans une période de sa vie précise que Schoenberg a besoin de se tourner vers ce type de production-là. Et effectivement, c'est le moment où, comme je vous l'ai dit, Schoenberg abandonne la tonalité et se dirige vers d'autres territoires musicaux et notamment la musique atonale. Donc on peut penser que dans cette recherche extrêmement novatrice, hein, sur laquelle il s'avance vraiment en explorateur parce que personne n'a vraiment théorisé cela et expérimenté cela avant lui, il a besoin aussi de se doter d'un autre type de support qui est celui de la peinture.
Il y a une autre peinture dans l'exposition, une peinture assez forte qui représente l'enterrement donc de Gustav Mahler, qui fut l'un de ses maîtres, c'est bien
oui.
ça?
Oui, alors il n'a pas été l'un de ses maîtres au sens d'enseignement, hein, puisque en fait Schoenberg, on peut considérer, même s'il a poussé sa connaissance dans le domaine musical à un degré de raffinement extrêmement élevé, on peut penser que Schoenberg s'est formé tout seul, hein, en musique comme en peinture. Mais Mahler a été certainement l'une des personnalités qui l'a protégé et qui lui a permis d'évoluer dans les premières années de sa carrière. Il faut savoir que Mahler dispose au début du XXe siècle d'un statut assez respecté puisqu'il dirige l'orchestre de l'Opéra de Vienne. Même si les journalistes qui font partie de la presse antisémite, etc., pointent que Mahler comme Schoenberg sont des juifs convertis, l'un au catholicisme, l'autre au protestantisme. Mahler est une figure qui reste reconnue parce qu'il est un immense chef d'orchestre. Il va protéger Schoenberg dans le sens où il va non seulement programmer certaines de ses œuvres, mais aussi se débrouiller pour lui obtenir des bourses, un certain nombre d'aides financières qui l'aident beaucoup, puisqu'à ce moment-là, Schoenberg est véritablement rejeté et ne parvient que très difficilement à vivre de sa musique.
Alors, pardon, je vous ai interrompu.
Non, je voulais simplement du coup souligner que... Schoenberg va réaliser un certain nombre de portraits de Gustav Mahler, dont nous en exposons un de ceux qui est resté, qu'on a réussi à conserver dans la première salle. Et il y a donc aussi cette vision très émouvante de l'enterrement de Gustav Mahler, qui est un véritable déchirement personnel parce que les deux hommes étaient proches, mais aussi qui marque la fin d'une époque pour Schoenberg comme pour la musique viennoise du début du XXe siècle.
Alors j'aimerais qu'on revienne maintenant avec vous justement sur le parcours religieux atypique d'Arnold Schoenberg et son rapport au judaïsme, puisque vous le rappeliez à l'instant, il s'est converti au protestantisme en 1898 et il va revenir au judaïsme en 1933 à Paris.
Effectivement, c'est un parcours à la fois classique et très particulier. Classique dans le sens où lorsqu'il se convertit en 1898 au protestantisme, il appartient à une génération de juifs viennois qui ont un tel désir d'intégration dans la société que la conversion est l'un des moyens d'affirmer ce désir d'assimilation. Dans ce sens-là, enfin, je parlais de Gustav Mahler qui, lui, s'est converti au catholicisme, mais un certain nombre d'artistes et de penseurs juifs amis de Schoenberg, hein, je pense notamment à Karl Kraus, avaient fait aussi ce chemin de la conversion. Donc Schoenberg, dans cette première partie de sa trajectoire, en fait, et participe de ce moment historique assez caractérisé de volonté d'assimilation à la société viennoise, malgré une présence très forte de l'antisémitisme à Vienne notamment, et malgré sa conversion, il devra faire face à des critiques qui ne manquent pas de pointer cette identité-là. Ce qui est effectivement particulier, c'est qu'au fur et à mesure de son parcours, Schoenberg va progressivement revenir vers le judaïsme. Et effectivement, cela culmine avec la date de 1933 et sa reconversion à Paris.
Donc là, à ce moment-là, il a fui l'Allemagne à ce moment-là.
Voilà, il a fui l'Allemagne à ce moment-là. Mais en fait, on peut commencer à percevoir ce retour au judaïsme, en fait, dès la Première Guerre mondiale, où Schoenberg commence à réintégrer dans cette période-là, au cours de cette période-là, un certain nombre de thématiques bibliques. Ça se voit dans le projet d'oratorio L'échelle de Jacob. Et au fur et à mesure des années 20 et de la montée de l'antisémitisme, Schoenberg va subir un certain nombre d'attaques personnelles, et notamment l'été 1921 à Matsee, qui est une station balnéaire dans laquelle il passe ses vacances. En fait, il est exclu de la ville, comme les autres résidents juifs à ce moment-là. Et c'est vraiment le moment, cet été 1921, qui provoque une rupture dans la pensée de Schoenberg, dans son désespoir face à l'inexorable montée de l'antisémitisme. Et à partir de ce moment-là, on va déceler un retour beaucoup plus assumé du judaïsme comme une volonté de revenir à cette identité que lui-même avait peut-être voulu mettre de côté. Et qui est un retour identitaire avant tout politique. Donc on va le voir à travers un certain nombre d'autres œuvres. J'ai parlé de L'échelle de Jacob, mais on peut parler du chemin biblique et surtout de son opéra Moïse et Aaron, qui restera inachevé. Alors, à partir de 1933 et de son exclusion de l'Académie des Arts, à ce moment-là, 1933, il est à Berlin, hein, donc il subit de plein fouet l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il quitte Berlin, arrive en France, et quelques mois plus tard, trouve ce poste d'enseignant au conservatoire de Malkin, près de Boston, qui lui permet d'émigrer aux États-Unis. Et pendant toute cette période-là, en fait, on voit que l'activisme de Schoenberg pour prévenir des dangers qu'encourt la communauté juive en Europe, l'engage à écrire des articles, l'engage à donner des conférences et à alerter le milieu intellectuel sur les dangers de l'antisémitisme. Et en parallèle de ce travail-là, il va réaffirmer de plus en plus son appartenance au judaïsme.
C'est ça, c'est quand même le choix. Alors je ne sais pas si c'est un choix conscient, mais le choix de cette date de 1933 pour son retour au judaïsme.
Ah, je pense que c'est un acte beaucoup plus politique que religieux, on va dire. Mmh. C'est vraiment une manière de marquer sa solidarité avec l'ensemble d'un peuple dont il pressent une issue absolument dramatique dans les années qui viennent. Hein. Dans l'un des textes qu'il écrit au cours de ces années-là, il prédit l'assassinat de 7 millions de Juifs. Donc, il a une forme d'acuité politique sur la situation et sur les dangers qu'encourent les Juifs dans l'Allemagne hitlérienne et dans les volontés d'expansion territoriale d'Hitler. Et du coup, c'est vraiment une manière de marquer sa solidarité politique avec les Juifs et de s'affirmer comme tel au moment où ils sont le plus fragilisés.
En 1946, il compose d'ailleurs l'une des premières œuvres musicales pour rendre hommage aux victimes de la Shoah, un survivant de Varsovie. Ça s'inscrit aussi dans cette...
Évidemment, oui, c'est une œuvre extrêmement importante dans l'histoire de la musique à ce titre-là, hein, puisque c'est l'une des premières œuvres qui a parlé directement de la Shoah, très peu de temps après la guerre. Et c'est une œuvre très, très émouvante, qui est très courte, hein, qui fait une douzaine de minutes, avec un grand orchestre, et qui se base à la fois sur des témoignages que Schoenberg a pu entendre sur la vie dans le ghetto de Varsovie, et sur le rôle que peut jouer la musique face à l'horreur et à l'atrocité. On montre dans l'exposition l'une des partitions de Schoenberg sur lesquelles Schoenberg a travaillé pour composer ce morceau. Et ce qui est très émouvant, c'est que ce morceau se termine sur un chœur d'hommes qui entonne la prière Shema Israël. Schoenberg ne parlait pas, enfin, Oui, il ne parlait pas l'hébreu, il ne l'écrivait pas. Et donc on voit sur cette partition-là une transcription littérale de cette prière. Et ça s'inscrit clairement dans la continuité de ce que Schoenberg a entamé avant la guerre, ce qu'il continue pendant, puisque en 1938, il compose à la demande d'un rabbin américain une nouvelle version du Kol Nidri. Et par la suite, après Un survivant de Varsovie, il va composer des psaumes. Donc on voit que la question du judaïsme va continuer à l'habiter.
Je vous remercie beaucoup, Fanny Schulman.
Et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.
Je vous en prie. Mais je rappelle donc à nos auditeurs qu'ils peuvent aller voir ces différentes facettes de l'œuvre d'Arnold Schoenberg dans l'exposition Arnold Schoenberg, peindre l'âme, qui a lieu avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah à Paris jusqu'au 29 janvier prochain au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.